Soir Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Arzuma Compaoré avec vous pour ce bulletin d'information du dimanche 27 février 2022. Il est 19h en temps universel, 21h à Kiev. Au quatrième jour de l'invasion russe, l'Ukraine a confirmé ce dimanche des pourparlers avec Moscou à la frontière ukraino-bélarusse, tandis que Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire de l'armée russe. Samedi, l'Ukraine a affirmé qu'au moins 198 civils avaient été tués depuis le début de l'invasion russe. Kiev a aussi dit avoir tué plusieurs milliers de militaires russes, une affirmation invérifiable de sources indépendantes. L'armée russe a toutefois reconnu dimanche pour la première fois enregistrer des pertes humaines au cours de son invasion de l'Ukraine sans pour autant donner de chiffres. M. Zelensky, qui a saisi la Cour internationale de justice de la Haye, a salué la formation d'une coalition anti-guerre internationale pour soutenir l'Ukraine et appeler les étrangers à venir se battre contre les criminels de guerre russes dans une légion internationale en formation. Dans la ville de Kiev, sous couvre-feu jusqu'à lundi 8h, la matinée a été calme après des affrontements durant la nuit avec des groupes subversifs, donc selon le bureau du maire. Moujibat Ishola est une étudiante de nationalité ivoirienne coincée dans les sous-sols de la ville de Kiev. Voici ce qu'elle nous a dit il y a quelques heures.
En fait, ici, disons que c'est la panique totale parce que nous sommes à la capitale, à Kiev. Du coup, lorsqu'ils font le bombardement, tout et tout, c'est plus entendu. C'est plus entendu ici parce que nous, on n'est pas trop loin. Nous sommes à 40 à 30 km du camp. Donc, les bombardements, tout et tout, c'est entendu. C'est-à-dire que les sécurités totales, quoi. Donc, on ne prend pas le risque de rester dans notre appartement. On préfère, en fait, venir se réfugier dans au sous-sol, en fait. En bas de chaque appartement, c'est-à-dire en bas des immeubles. Bon, c'est pas tous les immeubles, en fait. Mais en bas des immeubles, normalement, il y a un sous-sol. C'est là qu'on se refuge. Parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas que lorsqu'ils vont vouloir lorsqu'ils sont prêts à se bombarder, vous n'êtes pas comprendre les pots cassés. Vu que les lieux d'habitation ne sont vraiment pas en sécurité.
Voilà, c'était Moujibat Ishola, une étudiante ivoirienne coincée sous les sous-sols dans la ville de Kiev. Le monde sportif met lui aussi la Russie à l'écart. Les boycotts de la Russie dans le sport se multiplient. La Fédération internationale du judo a annoncé la suspension du statut de président honoraire de M. Poutine. La Fédération tchèque de football refusera d'affronter la Russie en vue du Mondial 2022, à l'instar de la Pologne et la Suède. La Fédération française penche pour une exclusion de la Russie. Le géant américain de l'Internet, Google, a lui aussi suspendu la possibilité, donc, pour les médias financés par l'État russe de générer de l'argent sur ces plateformes. Le Japon se joindra aux pays occidentaux pour exclure certaines banques russes de la plateforme SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale, a annoncé dimanche son premier ministre. Enfin, l'Union européenne va fermer l'ensemble de son espace aérien à tous les avions russes, y compris les jets privés des oligarques, en représailles de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a annoncé dimanche la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. La junte au pouvoir au Burkina Faso annonce la tenue dès lundi d'assises nationales pour déterminer la durée de la transition, alors qu'une commission proposait 30 mois avant le retour à l'ordre constitutionnel. Le lieutenant-colonel Damiba, 41 ans, a pris le pouvoir le 24 janvier à Ouagadougou après deux jours de mutinerie dans plusieurs casernes du pays, renversant ainsi le président élu Roch Marc Christian Kabore, accusé notamment de ne pas avoir réussi à contrer la violence djihadiste qui frappe le Burkina Faso depuis près de 7 ans et a fait quelques 2000 morts et 1,5 million de déplacés. L'Érythréen Nathaniel Tetsfassion a remporté pour la deuxième fois le tour du Rwanda qui s'est achevé dimanche dans la capitale Kigali par la victoire du Rwandais Moïse Mushiga dans la 7e étape. Tetsfassion, qui court pour l'équipe italienne Drone Harper, s'était déjà imposé dans l'édition en 2020 de l'épreuve auquel il n'avait pas participé l'an passé. Kigali accueillera en 2025 les mondiaux sur route. On se retrouve dans une petite heure.
Info sur VOA Afrique.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Vous écoutez VOA Afrique depuis Washington DC, la capitale américaine. Lionel Damila Gaïma sur la mise en onde. Eric Banilakis avec vous à la présentation. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ainsi dit Jean chapitre 13 verset 34-35. On parle évidemment de l'amour et de la Saint-Valentin, la fête des amoureux célébrée chaque année le 14 février. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Ce soir, nous recevons le couple Emmanuel Bouramatali et Joël Moroza, fondateurs de Family First. La famille d'abord, c'est ça, n'est-ce pas?
Effectivement, c'est le premier ministère que le Seigneur, notre Dieu, a mis en place dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève.
Je m'excuse, il fallait que je dise bonsoir d'abord. Bonsoir Joël.
Bonsoir Eric, c'est un honneur pour nous d'être ici. Merci beaucoup de nous avoir invités.
Merci Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Eric, c'était un plaisir, c'était vraiment un honneur, un privilège d'être là avec toi ce soir.
Family First, un ministère, pour quel but, Joël?
C'est un ministère qui est né après plusieurs combats familiales que le Seigneur nous a fait traverser. Il nous a fait vraiment voir l'importance de la famille, d'être soudés ensemble par l'amour de Christ, parce que nous savons qu'aujourd'hui, on a l'ennemi qui rôde, qui veut briser les familles. Et on s'est dit, ce que nous avons traversé, nous allons pouvoir le partager avec les autres, partager comment le Seigneur nous a fait traverser et la victoire qu'il nous a fait gagner dans ce que nous avons vécu, afin que les autres puissent en profiter, puissent savoir qu'il y a un Dieu qui est capable de nous sortir de toute situation que les familles puissent se rencontrer. C'est là où le Family First est né, pour bénir les autres, être un ministère au service des autres pour l'édification du corps de Christ.
Merci d'être avec nous pour partager vos magnifiques témoignages de couple qui racontent votre belle histoire d'amour. Mm-hmm. Nous avons une deuxième invitée, ou une troisième, c'est Thérèse Kanyangé. Bonsoir Thérèse.
Bonsoir Eric, c'est aussi un privilège et un bonheur d'être parmi vous ce soir.
Merci d'être avec nous. Notre monde a tant besoin de témoignages d'amour conjugal et on va profiter de la Saint-Valentin pour avoir le témoignage de Joël et Emmanuel. Comment faire croître l'amour, le faire durer et lui permettre de s'épanouir?
Ouais. Ça prend à être intentionnel parce que ça ne peut pas venir tout seul. Ça prend l'entretien, ça prend à connaître l'autre, à connaître son langage d'amour. Parce qu'on a tendance souvent d'aimer l'autre de la façon que nous, on reçoit cet amour. Donc, il faut vraiment connaître son conjoint ou sa conjointe pour savoir comment remplir son réservoir d'amour, comme on dit. Donc, ça prend d'arrêter, justement, comme aujourd'hui, le 14, beaucoup de personnes se sont arrêtées pour souligner, justement, cet amour entre eux. Peut-être il y en a qui ont fait un dîner aux chandelles, différentes choses que vous pouvez faire. Alors, nous, par exemple, on a tendance vraiment à se dire, OK, au moins une fois, même si c'est une fois le mois, bien sûr, avec la pandémie, ça n'a pas aidé, de pouvoir sortir, laisser les enfants à être gardés quelque part pour nous retrouver, pour reconnecter, parce que nous vivons dans un monde où on est tellement occupé, il y a des choses qu'on peut chacun accumuler, ne pas pouvoir vraiment aller en profondeur dans les discussions des choses, des différentes choses de la vie. Donc ça prend ce temps de se reconnecter, de pouvoir parler vraiment cœur à cœur pour que nous puissions savoir comment va l'autre. Est-ce qu'on peut discuter sur tel sujet, comment tu vas vraiment. Donc c'est très important. Qu'est-ce que tu peux dire aussi?
Moi, je pourrais ajouter à ce que tu dis qui est super intéressant et important. Par rapport aux hommes, surtout, je pourrais dire il faut savoir mourir à soi. Savoir mourir à soi, c'est quelque chose qui est tellement essentiel, c'est-à-dire mourir à ses propres besoins égoïstes. Quand on apprend à mourir à soi, c'est-à-dire qu'on suit l'exemple de Jésus, qui dit aussi dans la prière, dit dans la parole, homme, donc Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé son Église et s'est sacrifié pour elle. Donc c'est un message qui est destiné aux hommes, de pouvoir, on ne va pas te demander de mourir physiquement, c'est sûr, on ne va pas demander d'aller à la croix, Jésus l'a déjà fait, donc tu n'as pas à craindre de pouvoir aller à la croix et souffrir tout ça, mais c'est de mourir vraiment à ses besoins personnels égoïstes. C'est vraiment une façon d'être dans l'humilité et de pouvoir être au service. Et quand tu es au service, il y a l'autre partie de la parole de Dieu qui demande aux femmes d'être soumises à leur mari, qui devient comme un complément de la première partie qui est de pouvoir aimer sa femme. Donc les deux vont se compléter et pouvoir vivre une vie harmonieuse. Donc c'est ça un peu la base, je pense, de d'une relation qui dure. C'est l'amour d'une part et la soumission de l'autre.
La soumission de la femme.
C'est les deux face d'une seule médaille. Thérèse?
Je pense que le couple expérimenté a tout dit, hein. C'est vraiment ça. Je pense que pour vivre une relation harmonieuse, c'est sûr qu'il faut mourir à soi, comme on l'a dit. Il faut chercher l'intérêt de l'autre. C'est sûr que c'est pas facile, parce que je pense que ça prend de la communication, ça prend du temps, ça prend de l'écoute, de savoir ce que l'autre comprend, parce que même si on aurait, on serait né le même jour, on ne comprend pas les choses de la même façon, à plus forte raison, fréquenter une personne qui a un passif différent, un background différent, un vécu différent, je pense que ça demande beaucoup de volonté et beaucoup d'amour agapé, comme on dit. Vraiment, on se dit, je meurs à moi, je suis là pour le bien du couple, mais pour le bien aussi de la personne qui est, surtout du bien de la personne qui est en face de moi. Et ça demande beaucoup de communication, parce que des fois, on peut penser que l'autre veut ceci, alors que l'autre comprend les choses différemment. Donc, je pense que c'est un travail peut-être à vie, hein. C'est moi qui pouvais témoigner. J'imagine que ça doit être un travail quotidien et puis qui s'exerce durant toute une vie finalement.
C'est aussi l'objectif de Family First, n'est-ce pas, pour essayer de contribuer, d'aider certains couples de se relever, n'est-ce pas? Les échanges que vous essayez d'organiser, je dirais pas au quotidien, mais toutes les semaines, vous animez beaucoup de débats, vous invitez beaucoup d'autres personnes pour partager leurs expériences. Aujourd'hui, si vous essayez de regarder en arrière le travail déjà abattu, que reste-t-il à faire, Emmanuel?
Oh, écoute, comme on l'a dit tantôt, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui ne se termine pas. Nous ne sommes que une pierre à l'édifice, hein. Nous apportons notre petite contribution dans notre petite, je dirais ça, notre petit réseau, n'est-ce pas, de contact où les gens peuvent nous contacter pour pouvoir échanger par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à notre témoignage, pour les encourager, pour leur dire que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, le monde offre vraiment très peu d'opportunités, très peu d'alternatives à des gens qui souffrent dans leur couple. La plupart, on leur propose le divorce, au mieux une séparation. Et donc, nous, on s'est dit que c'est possible de passer au travers sans aller vers le divorce. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Donc, c'est un Dieu de la guérison. Et là, on voyait Jésus-Christ pour guérir les cœurs brisés. Et les cœurs sont tellement brisés, on ne minimise pas du tout les situations que les gens peuvent vivre et qui sont tellement difficiles. Mais nous savons que Jésus, à travers son sacrifice à la croix et son amour inconditionnel, nous permet de pouvoir réellement passer au travers et aussi de devenir, comme on dit, un témoignage vivant de sa bonté, de son amour. C'est tout ce qu'on veut essayer de démontrer. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, on y travaille à tous les jours. À chaque jour, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'on prenait le temps de pouvoir se retirer un peu pour approfondir certaines questions. Ça ne veut pas dire qu'on a l'assurance à vie que tout va aller bien. À chaque jour, on ne prend rien pour acquis. On s'assure par sa grâce, on s'assure qu'on est sur le bon chemin. C'est comme on dit, c'est comme l'apôtre Paul, là, il faut on combat le bon combat, on continue la course jusqu'à la fin. Tant qu'on n'est pas encore rentré là, auprès du Père, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, qui n'est pas toujours terminé. Donc, c'est un peu ça.
Joël, vous avez déjà atteint, disons, l'étape d'être là pour lui, quelle que soit la situation qui peut arriver. Donc, vous êtes prête d'être toujours là pour lui.
Éternellement. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, c'est à tous les jours, par la grâce de Dieu, oui, on doit se réitérer nos voeux à tous les jours, parce que justement, on doit pouvoir arriver à cet amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. On est tous les deux imparfaits. Le Seigneur fait son œuvre en chacun de nous. Il nous sanctifie, il nous change nos caractères. Nous grandissons. La Joël d'hier, l'Emmanuel d'hier ont changé. Donc, on continue d'apprendre de l'un et l'autre, d'accepter le processus de transformation que le Seigneur fait dans chacun de nous. Donc, il faut être patient. C'est les fruits de l'esprit qui te donnent la patience de pouvoir laisser l'autre se transformer par le Saint-Esprit et puis voir cette merveilleuse personne que le Seigneur est en train de transformer sous nos yeux. Mais c'est vraiment s'aimer inconditionnellement. On ne regarde pas tout le temps sur les défauts. C'est plutôt laisser le Seigneur travailler dans chacun de nous, parce qu'on est tous les deux imparfaits. Mais on s'aime avec l'amour de Dieu.
Emmanuel, on sait qu'il y a toujours des hauts et des bas. On peut traverser des situations extrêmement compliquées. Et atteindre cette capacité de se sentir, disons, capable d'être là pour l'autre, des fois, c'est un exercice très complexe.
C'est un exercice très complexe et très difficile si on se réfère à nos propres capacités, à nos propres efforts humains. Alors, si humainement parlant, tu dis que tu vas supporter une autre personne, comme on disait tantôt avec la sœur Thérèse, vous n'avez pas les mêmes backgrounds, vous n'avez pas les mêmes caractères, vous n'avez pas les mêmes défis de vie et tout ça, c'est humainement impossible. C'est pour ça qu'il y a tant de cassures. Mais si on dépose notre fardeau auprès de Jésus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on se sent soutenu. Et c'est là où, quelque part aussi, à part ça, on développe aussi, comme l'a dit tantôt Joël, les fruits de l'esprit. Un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Et la parole de Dieu nous parle d'un amour qui n'est pas un amour seulement sentiment, mais c'est un amour qui est revêtu. Revêter l'amour, c'est-à-dire quelque chose qu'on porte, c'est-à-dire qu'on doit l'avoir dans notre cœur, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, il y a l'amour, bien sûr, humain, l'amour qui est charnel, l'amour qui est éros, qui existe. C'est une forme d'expression, mais cet amour-là ne peut être épanouissant que si au niveau spirituel, on a réellement reçu l'amour de la part de Dieu. On ne dit pas qu'on doit vivre dans un amour qui est, comme on dit, toujours spirituel. Là. On ne chante pas les louanges tous les jours dans la maison, rassurez-vous, mais le fait qu'on a le Saint-Esprit qui nous aide par sa grâce, on arrive à traverser l'amour. L'amour, c'est un don de soi, en fait. C'est vraiment ça qui doit être important à retenir à ce niveau-là.
Thérèse, très souvent, on peut confondre, disons, le mot sacrifice et l'amour. Donc, le fait de comprendre qu'on aime quelqu'un et qu'on doit être là pour cette personne que vous aimez. Non pas seulement lorsque la personne est là physiquement, quand bien même elle n'est pas là. Vous devez sentir que vous êtes là pour cette personne. Et très souvent, il y a des gens qui vont dire, écoute, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Quand on amène cette idée de sacrifice, est-ce que ce n'est pas un faux départ?
Le mot sacrifice, en tant que chrétienne, pour moi, il n'est pas mauvais. Hein? Il n'est pas mauvais parce que c'est sûr que c'est vrai que la terminologie peut jouer dans la compréhension des circonstances et des contextes et tout. Mais en tant que chrétienne, le mot sacrifice, pour moi, il n'est pas mauvais parce qu'on voit que le modèle parfait que Dieu nous donne, c'est Jésus. Parce que c'est ça le modèle parfait de toute façon que Dieu nous donne. Il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et de toute façon, on va voir que quand on aime, c'est très facile de s'offrir, de donner. On a juste envie de donner son temps, donner des cadeaux, donner son encouragement. Et puis, quand on arrive à un certain niveau, comme Emmanuel et Joël expliquaient, c'est pas toujours rose dans le couple. ou en relation, que ce soit une relation amicale ou bien une fréquentation. Mais on doit arriver à cette étape justement de se sacrifier pour son ami ou bien se sacrifier pour la personne qu'on aime. Et puis quand on aime vraiment la personne, c'est même gratifiant de se sacrifier. Si on doit utiliser ce mot se sacrifier ou bien se donner, est-ce que c'est un mauvais départ? Je pense que non. Je pense que dans la vie, on doit être prêt justement à faire des sacrifices ou bien des compromis pour les personnes qu'on aime. Et on le fait naturellement. Tous les jours. Par exemple, quand on a notre parent, notre grand-mère, notre grand-père qui ne va pas bien et qu'on est épuisé, on revient du boulot, facilement comme on aime la personne, on va aller la visiter, on va prendre soin d'elle. Donc, si on dit qu'on va s'engager en couple hein, avec une personne, et qu'on se dit que la vie de couple doit quand même être belle avec l'amour, avec tout ce qui vient de Dieu. Donc je me dis que se dire qu'on doit se sacrifier ou bien sacrifier une partie de soi ou donner une partie de soi pour ne pas utiliser le mot sacrifier qui peut peut-être faire peur à certains, je me dis que ce n'est pas un mauvais départ, c'est être réaliste. Selon moi, c'est être réaliste parce que si on se dit que tout va être rose, qu'on n'aura pas à se donner, à se sacrifier, à se dépenser pour que la relation fonctionne, c'est là qu'on partirait d'un mauvais départ. Ce serait comme platonique, ce serait beaucoup d'illusions. On ne serait pas dans la vraie vie qui demande à tous les jours des sacrifices et un certain don de soi comme Emmanuel et Joël l'ont exprimé tantôt.
On parle de la Saint-Valentin, justement. Est-ce que, selon votre expérience, au regard de la célébration des années antérieures, avant que vous ne deveniez pas chrétien, donc avant que vous n'étiez pas de nouveau, est-ce que ça a changé votre regard par rapport à cette fête, disons, pseudo-chrétienne?
Oui, personnellement, oui, ça a beaucoup changé ma façon de voir cette célébration-là. Il faut dire qu'à l'époque, quand j'étais pas encore né de nouveau, c'était pour répondre à un besoin, je dirais, commercial. C'est-à-dire que si tout le monde le célèbre, il faut que je fasse un geste et je devais chercher quelque chose pour faire remarquer à la personne avec qui j'étais à l'époque que je pensais à elle. Même si, je dois le dire, des fois, c'était pas quelque chose que je voulais faire non plus, hein. Ce n'est pas de mon cœur nécessairement, mais c'est juste qu'il fallait faire quelque chose et donc répondre à un besoin, je dirais, commercial. Donc c'était une impulsion charnelle, personnelle qui était là. Alors qu'aujourd'hui c'est différent, je regarde ça avec un autre regard, j'ai moins de pression, personnellement j'ai moins de pression, la preuve, je peux faire un cadeau 2-3 jours avant, je n'ai aucun problème. Je ne me sens pas obligé de faire quelque chose ce jour-là. Et au contraire, je le fais quand je veux. Et puis, à la limite, ça tombe bien durant la période. Mais j'en profite aussi, comme je suis père, de souligner cela différemment avec les enfants aussi. D'en profiter pour faire une emphase. Vous savez, les enfants, quand ils grandissent, ils deviennent adolescents, adolescentes. C'est cet appel vers une fête sur l'amour, ça peut être, comment je pourrais dire, porté à plusieurs confusions. J'ai pris le temps de leur parler, de leur demander si vous savez ce que c'est Saint-Valentin. Ils ont tapé sur Google pour chercher. On a fait une petite discussion autour de ça pour qu'ils comprennent un peu. Parce que c'est une façon aussi d'éduquer, d'enseigner et puis de créer une plateforme de réflexion sur l'amour en soi. Ils peuvent voir ça à la télé ou bien écouter des publicités sur Instagram, il peut se sentir interpellé par ce genre d'amour-là. Donc moi, c'est une occasion pour moi de dire, de créer une certaine nuance et puis d'apporter certaines réflexions qui peuvent les aider, à, une fois adultes, de faire le choix. L'amour éros n'est pas mauvais, mais encore une fois, je l'ai dit, c'est dans un cadre bien spécifique qui est le mariage. Et l'amour n'est pas seulement l'acte sexuel ou les relations intimes. L'amour, c'est avec un grand A. Il est filial, on peut dire, comme on l'a dit tantôt, on aime sa grand-mère, on aime son grand-père, on aime son père, on aime sa mère, on aime ses enfants, on aime ses tantes, on aime ses collègues, on aime sa femme aussi.
Joël?
Oui, c'est certain que ça a changé parce que avant d'être chrétienne, c'est plus par rapport à ce que tu vois à la télé, dans les films, les émotions, tout ce qui va avec par rapport à les publicités au fait. Mais lorsque tu deviens chrétienne, ça a plus de sens la signification de l'amour en fait. Ce n'est plus par rapport à ce que nous voyons dans les films, comme parce qu'on grandit en ayant cette cette perspective de la princesse et d'être choyée avec des fleurs. Mais ce n'est pas ça l'amour. Le vrai amour est décrit dans la parole de Dieu, bien sûr. Quand tu deviens chrétienne maintenant, il y a plus de sens par rapport à l'amour en toi. Et tu regrettes même ces années où tu faisais ces choses. Tu commences maintenant à l'apprendre aux jeunes filles par rapport à la valeur qu'elles sont dans le Seigneur, de justement attendre de ne pas réveiller cet amour, parce que justement les fêtes de Saint-Valentin, ça réveille beaucoup cet amour qui n'est pas encore prêt d'être réveillé. Donc ça cause que les jeunes filles commencent à vouloir cet amour avant le temps où les garçons à vouloir avoir cette atmosphère de célébrer cette fête qui les amène, parce qu'ils sont encore dans la chair, ça peut les amener dans des situations compromettantes. Alors qu'ils devraient attendre. Justement, lorsque tu deviens chrétienne, maintenant tu as les yeux ouverts par rapport à qu'est-ce que vraiment l'amour. Et donc, tu le fais très différemment. Et tu as même envie de le partager au plus jeune possible, de ne pas vraiment se laisser aller par rapport à toute la publicité qu'ils voient, qu'il faut attendre pour connaître le vrai amour.
Thérèse, est-ce que vous êtes arrivée à célébrer cette fête dans le temps pour répondre à ce besoin commercial, mais aussi sentimental, ponctuellement? Et on sait que certaines personnes envoient plusieurs fleurs ou plusieurs messages à plusieurs personnes en même temps.
J'en suis témoin. J'ai pas osé le dire.
C'est ça. J'étais ignorante.
Ben, s'il faut parler de moi personnellement, je dirais que j'ai pas vraiment eu à fêter la Saint-Valentin pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai reçu Christ, j'avais 17 ans. Okay. Et puis c'était en Afrique, on ne connaissait pas vraiment la Saint-Valentin. Je dirais que je connais la Saint-Valentin depuis que je suis en Amérique du Nord. Et puis à un moment donné, j'étais en couple, mais je ne me rappelle pas que j'ai eu à fêter la Saint-Valentin ni à recevoir de fleurs. Parce que si j'en avais eu, je pense que ça aurait fait une grosse impression, donc je penserais la paix. Mais un peu pour répondre vite fait, comme Joël était en train de le dire, c'est sûr qu'on a plus tendance à se conformer au siècle présent, comme dit la Bible. Et puis c'est inévitable, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde, comme la Bible le dit. Mais c'est sûr qu'on est tous portés à certaines envies qui des fois peuvent être mauvaises, pas. Donc tout ça demande de l'équilibre. Mais est-ce que j'ai eu vraiment à fêter la Saint-Valentin? Non, donc pour ces raisons-là. Je suis rentrée dans l'église peut-être un peu jeune pour avoir à fêter. Est-ce que j'aimerais fêter un jour la Saint-Valentin? Oui!
C'est Emmanuel et moi qui me l'a appris avant le mariage. C'est lui que j'ai appris la Saint-Valentin.
Voilà, merci beaucoup pour votre contribution dans cette édition du Dialogue des Religions consacrée à cette fête des amoureux, la fête de Saint-Valentin. Merci Joëlle pour votre témoignage.
Merci beaucoup Eric, ce fut vraiment un privilège et un honneur d'être ici, de partager ces moments vraiment précieux, de parler de l'amour. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. Effectivement, Dieu est avec nous. C'est la signification de Emmanuel. Emmanuel, merci.
Tu as la suite dans les idées, Eric. Non, Eric, c'est vraiment un plaisir de participer à ton émission. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et tu permets de donner une autre voix à cette fête de l'amour. Il y a d'autres façons de l'exprimer. Et toi, tu viens d'apporter une autre voix. Et je suis vraiment reconnaissant. Et je remercie le Seigneur de t'inspirer par rapport à ça.
Thérèse, merci d'être là. Je n'ai pas été obligé à aller à Calcutta pour vous.
En tout cas, ce fut vraiment un plaisir. Et puis, comme Emmanuel vient de le dire, donc le Seigneur t'inspire, donc tu viens de donner une nouvelle perspective à cette fête. Et puis, tu permets quand même que certains puissent célébrer. Hein, la preuve, je suis là. Donc, merci beaucoup et pour la
avec vous à la présentation. Lionel, je vous donne la gagne à ce qu'on a mis dans le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.